Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 192. Mon nom est Paul Andriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Bonjour!
Ouais, ben bravo Paul, t'as officiellement remporté ton bet complètement arbitraire sur 20,
ben oui, ben
une
oui.
chance sur 20. Mais c'est plus qu'une chance sur 20, là. T'sais, souvent il y a des profils un peu, mais bon. Fait que Bong Joon-ho, réalisateur de Memories of Murder, Okja, Snowpiercer, The Host, tous ces...
Mother,
mon Dieu, son meilleur film. Nous revient avec Parasite, qui a gagné la Palme d'Or. On en dit énormément de bien. Je pense que c'est la Palme qui a rallié critique et les 9 membres du jury, présidés par Inarritu. Parce que vraiment, moi j'aime ça qui suit mon canne de loin. Là. Je vais vous dire comment que je suis mon canne, moi, quand je suis pas là. Quand je suis pas là, non, c'est le gars trop... Quand je suis pas... à Cannes, moi-même. Non, mais... Fait que moi, j'aime ça, dans la vie, je trouve que c'est un peu... Ça peut être un peu evil, tu sais, des agrégateurs, là, Metacritic, puis Rotten Tomatoes, là, parce que, tu sais, c'est comme... Ça dévalue un peu la substance de ce qui est dit autour des films au profit de juste, comme... Je sais pas, le quantifier à quel point c'est censé être bon, ce qui fait pas vraiment de sens. Ceci dit, je me contredis tout de suite en disant que à Cannes, j'aime beaucoup ça, suivre les tableaux d'étoiles puis les agrégateurs. Pourquoi? Parce que j'aime ça pas trop lire sur les films, au fait. Tu sais, des fois, comme tu lis, je sais pas, les reviews des 20 films en compétition, plus en plus, il y a tout plein de films qui ont un certain regard, puis de la semaine de la critique, tu sais, qui ont beaucoup de profils aussi. Donc, tu sais, si t'es pour lire tout à propos des films que tu vas voir au compte-goutte dans la prochaine année, je sais pas, on dirait que ça peut enlever un petit peu de magie. Fait que, tu sais, je les check, je check l'agrégateur, bref. Puis, deux choses qui sont sorties des agrégateurs de Cannes. Bong Joon-ho était autant de la critique américaine que de la critique française ou même internationale. Je pense que c'était pas possiblement là, le film qui s'en tirait, qui sortait avec les meilleures critiques. Et c'est une comédie noire, en fait. Puis ça, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est relativement rare. Je faisais l'exercice là, de regarder c'est quoi les Palmes d'Or des dernières années. Puis c'est assez rare qu'on peut mettre une étiquette comédie, finalement, à un film qui repart avec les plus grands éloges. Puis c'est Bong Joon-ho aussi. Donc, pour toutes ces raisons, même si ça m'enthousiasme de loin, cette Palme d'Or. Qu'en pensez-vous, les gars?
Ben, il a pas fait un mauvais film, honnêtement, là. Sur toute sa filmographie, OK, il y a des films un peu plus faibles, mais... Je sais pas, là, moi je suis super content, en plus, grand défenseur du cinéma de genre. C'est clair que lui gagne, moi ça me fait vraiment plaisir, mais c'est ça, c'est un réalisateur qui a pas de failure dans toute sa filmographie. Mm-hmm. Fait que oui, là, c'est sûr que waouh, quel beau win, là.
Puis est-ce que vous voulez qu'on passe un peu les autres prix?
Oui, let's go.
Ben ouais, pourquoi pas.
T'as pris tellement le contrôle, là.
Ben oui, tout à fait.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me demandais si Paul allait reprendre les rênes.
C'est Pascal qui anime, là.
Ouais, je prends une petite pause, c'est correct.
C'est bon. Bon, ben Paul, c'est bon. OK. Fait que, grand prix, c'était Mathis Diop pour le film Atlantique. Un film dont on, je crois, semble dire un peu plus austère, mais en même temps très politique, très d'actualité. Et aussi, quand même, on peut mentionner, là, pour le trivia, mais c'est quand même la première femme noire qui gagne un prix tout court, hein. Ça c'est le grand prix, donc le deuxième prix, mais un prix tout court. Donc félicitations Mathis Diop, dont j'en avais un peu parlé le dernier podcast, parce que son court-métrage, mais c'est un film de 40 minutes, mais qui s'appelait Mille Soleils, était sublimissime. Donc Atlantique de Mathis Diop. Puis évidemment, il y a les autres prix, il y a les Dardennes qui ont gagné le prix de la mise en scène notamment, et d'autres, mais c'est ça, moi j'ai aimé ça suivre l'agréateur de review, et je te dirais le top 3-4, ceux qui semblent s'être démarqués au niveau critique, c'était effectivement Parasite de Bong Joon-ho, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, dont on dit énormément de bien, le Almodovar aussi, Douleur et gloire, dont on lui aussi, pour plusieurs personnes semblait dire, son meilleur depuis Parle avec elle en 2002 ou quelque chose comme. Donc, super pour Monsieur Almodovar. Et l'autre film qui semblait aussi s'être démarqué... Non, je pense que c'était pas mal les trois gros films qui ont galvanisé la critique. Là.
Il y a d'autres films qui se sont démarqués, mais peut-être pour d'autres raisons, peut-être pas nécessairement les bonnes. Notamment, je ne sais pas à quel point vous avez entendu parler du film de Kechiche. Ben oui. Mais ça, c'est vraiment un peu le scandale de cette année. Alors que c'est souvent un Lars von Trier ou un Gaspar Noé là, qui nous fait un scandale. Là, c'est, mm-hmm. là, c'est comme Kechiche un peu qui était comme justement le, sur toutes les lèvres pour les mauvaises mm-hmm. raisons.
Ben, peut-être Kechiche, il est pas. Ou lui aussi, là, il fait scandale. Là, c'était pas comme si c'était tout à coup Kechiche est controversé. Là. Ben... La vie d'Adèle, il y a eu tellement de controverses autour du film.
Ben, il y en a eu ça. Après, mais c'est sûr qu'à Cannes, la vie d'Adèle, c'est le triomphe. T'sais, c'est vraiment comme.
Ouais, ouais.
C'est
ouais,
par
ouais,
la
non,
suite
non.
que ça a commencé à avoir des plusieurs rumeurs et plusieurs accusations, notamment de faire des tournages extrêmement difficiles, de pas mettre au générique ses techniciens. Là, dans le nouveau film, bon, on peut dire que c'est peut-être une copie de travail, il était pas prêt pour Cannes, mais. Il était toujours sans générique. Film de comme presque 4 heures, ouais. qui est la suite à son premier Mektoub My Love, qui est toujours pas sorti au Québec, qui est sorti en 2017 à Cannes et en France. Et celui-là, en fait, donc Intermezzo, le deuxième chapitre d'une trilogie annoncée, qui supposément. Il a été accusé un peu d'être voyeur, slash misogyne, slash de faire que des films avec des jeunes actrices, un peu, tu sais, comme presque pas adultes, puis de justement de parler de leur découverte sexuelle et tout ça. Mm-hmm. Et loin de comme répondre aux critiques, on dirait qu'il en remet une couche. Puis là, il fait un film qui supposément est ultra voyeur, qui met notamment en place une scène qui serait peut-être non simulée, là, c'est pas trop clair. De
sexe oral, ininterrompu là, ouais, ben de
clilingus dans les toilettes d'un bar et puis ça fait partie d'une séquence au bar qui dure 2h30 supposément là. Donc pour plein de raisons le film est accusé d'être vraiment comme pervers et aussi tout simplement plate et genre comme un désastre là. Donc tu sais comme puis vous irez voir les critiques de c'est vraiment les gens s'en donnent à cœur joie, des fois ça fait vraiment des bons textes là, un film comme ça qui est aussi détesté là. Mais
ben, il est à 12 ans sur Metacritic hein, justement je parlais tantôt de Metacritic
12?
Mais ouais il était mais on parle pas d'un désastre de la même façon que tu sais par exemple quand le film de Sean Penn ou le film de Search de Azanavicius, tu sais ça je pense que c'était comme c'était vraiment des films qui rataient leur tu sais qui essayaient de rassembler mais qui étaient juste comme qui avaient pas le niveau, c'est comme là que Kechiche, on en parle quasiment comme du trolling ou genre, parce que c'est un artiste intelligent. C'est ça, il y a vraiment une rupture, on dirait, quand Kechiche s'est embourbé dans la controverse après La vie d'Adèle. Moi, La vie d'Adèle, c'est vraiment pas mon préféré en plus de son œuvre. Hein. J'ai vraiment juste pour le dire, j'ai beaucoup aimé L'Esquive, c'est un tout petit film, mais évidemment La Graine et le Mulet, je trouve que c'est un film superbe. Fait que tu sais, moi déjà, bon, Black Venus, mais puis après ça, la vie d'Adèle, je trouve qu'il y a eu plein de grandes qualités ce film-là, mais tu sais, c'est déjà je trouvais qu'il commençait un peu à s'égarer. Puis là, on dirait que les Mektoub My Love, de ces trois films de trois heures annoncés, sont Human Condition, mais qui semble avoir, au dire de plusieurs, aucune substance. Tu sais, on dirait que là, rapidement, tu sais, il gagne la Palme d'Or, puis en deux films d'une genre de trilogie qui devrait être quasiment avortée, peut-être, ou je sais pas, là. Je suis pas dans sa tête, puis je peux pas lui dire quoi faire, mais on dirait que il fait vraiment rouler les yeux, comme, je sais pas, comme, quand est-ce que ça s'est produit, ce tournant-là, pour moi, tu sais, puis comme, même quand ils l'ont annoncé, tu sais, c'était, Mektoub My Love Intermezzo était un film qui était annoncé à retard, hein, en même temps que le Tarantino, mais tu sais, comme, c'était comme, ah, yes, le Tarantino, puis ah, ouais, OK, l'autre film de Kechiche de son espèce de trilogie. Tu sais, rapidement, je me suis comme blasé de loin de ces films-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, l'anatomie d'un désintérêt, là, pour moi.
Mais avais-tu vu? T'avais pas vu le premier du tout, Pascal?
Ben non, c'est ça, ben personne, c'est pas vrai, mais...
Ben je sais peut-être, justement, vu que t'es à Cannes, tout le... non, c'est vrai, non, mais peut-être que tu l'as vu dans un contexte X, OK.
Même pas. Puis
on va quand même attendre de voir l'œuvre pour juger sur place.
Ah, ben,
en connaissance de cause, parce que tu sais, la critique qui veut que ce soit des films un peu superficiels, pour moi, ça, je pense, ça peut se justifier si c'est comme une espèce de commentaire sur la nouvelle génération. Tu sais, je veux dire, il y a moyen de comme se dire que c'est peut-être pas aussi pire que ce que les gens disent. Puis tu sais, il y a souvent des films aussi qui ont comme un gros clivage entre la critique américaine et la critique française. Est-ce que c'est un de ces films que vraiment les États-Unis qui sont peut-être plus prude rejette massivement là, à voir là.
Non, c'est ça, parce qu'il y a effectivement certains critiques, t'es des Inrock ou de bande à, t'sais, de plusieurs magazines importants français qui défendent beaucoup le film aussi, ce que je semble pas avoir vu de aucun critique américain. Puis ce qui semble être la défense, c'est le côté peut-être hypnotique, c'est-à-dire il crée quand même un genre d'objet, oui, qui peut sembler informe, mais dans lequel on peut un peu se perdre, s'enivrer. Bon, j'essaie d'y trouver des bonnes critiques, là, parce qu'il y en a très, très, très peu, mais ceux qui semblent le défendent beaucoup sur cette base-là. Mais comme tu dis, on verra de le voir. Mais c'est ça, c'est comme le film qui a été détruit, mais pour des raisons tellement différentes que certains... Justement, que le film de Sean Penn, par exemple.
Ouais.
Donc, moi, on dirait que, étrangement, c'est... Comme, exemple, le film de Sean Penn, ça criait, genre, juste, je le regarderai jamais, je perdrai pas mon temps. Mais étrangement, peut-être que d'être aussi... Que les gens soient aussi fâchés de ce film-là, là, on dirait que c'est peut-être l'incitatif pour que, oui, je le regarde, étrangement. On dirait que ouais, ça attise une curiosité morbide.
C'est pas basé sur beaucoup, là. C'est comme, tu sais, le Metacritic... C'est un score, tu sais, ce score-là de 12%, c'est basé sur 10 critiques.
Ouais.
Fait que, tu sais, ça peut revirer de bord assez vite, là. Ça peut remonter pas mal quand il va devenir plus public, le film, là. Juste que pour l'instant, ça reste, un petit comité là, qui l'analyse comme ça.
Ouais.
Là.
Ouais.
Puis surtout que, tu sais, faut jamais, j'en parle souvent, mais il faut jamais oublier que l'effet Cannes, c'est de voir comme certains des films les plus attendus de l'année par les plus grands cinéastes. Puis là, soudainement, c'est un film qui est uniquement, tu sais, un très bon film, ben, à côté de tous les autres, mettons, ça va avoir l'air d'un désastre. Ouais, parce que d'ailleurs, on peut parler un peu de nos Québécois qui sont à Cannes. Xavier Dolan, son film, il n'a pas nécessairement eu une super bonne réception.
Non,
pas mauvaise non plus, mais je pense que c'est ça découle de l'effet Cannes, du fait que la compétition est féroce. Le Jim Jarmusch en ouverture, il n'a pas vraiment beaucoup fait parler de lui tant que ça. Ça a l'air d'être un film bien sympathique, mais peut-être pas non plus aussi bon que ses deux, trois derniers films.
Ben, la réception aussi était assez moyenne. Là. Il paraît que c'est... Ben, tu sais, en même temps, je pense qu'on s'attendait un peu à ça, mais il paraît que c'est assez slow. Là. C'est, Jim Jarmusch fait rarement des films très beatés, mais c'est qu'on a une bande-annonce qui est ultra rapide. Là. C'est du montage très rapide avec plein de gags. Puis ça annonce comme quelque chose de super éclaté comparativement à ces films qui sont habituellement, c'est ça, là, slow pace. Là. Même quand il fait un film de vampire, ben, c'est un film de vampire super planant avec une trame sonore de musique rock-pop. Mais on peut pas... C'est un peu à ce qu'on s'attend d'un Jarmusch, mais c'est peut-être pas ce que la bande-annonce nous annonçait.
Ben, en tout cas, tu sais, le public de Cannes, ça n'a pas été nécessairement super emballé, mais effectivement, on verra sur pièce. Et le film de Monia Chokri, La femme de mon frère, qui a gagné une espèce de prix coup de cœur. Je ne sais pas si c'est un prix officiel ou quelque chose comme ça, mais il figure au palmarès de sa section.
Puis on a la chance qu'il sorte en salle dans la foulée, là, rapidement. Ouais.
C'est ça, la semaine prochaine.
Ouais.
Et je l'ai vu, les amis, puis je vais vous en parler, en fait. Parce que j'ai trouvé que c'est un film très sympathique, très, très cool. Le film de Monia Chokri, donc, trame narrative assez simple. C'est donc le personnage de Anne-Élisabeth Bossé et de son frère, interprété par Patrick Yvon, qui ont vraiment une relation, tu sais... on parle d'une relation fusionnelle dans le synopsis officiel. Puis c'est ça, c'est deux adultes qui ont vraiment une belle complicité. Et tout va pour le mieux, ils sortent ensemble, ils sont toujours en train de discuter l'un l'autre de leurs conquêtes respectives, de leur carrière, de leurs idéologies, leurs philosophies, leurs buts dans la vie, tout ça. Et tout ça est un peu chamboulé lorsque le personnage de Evelyne Brochu apparaît dans le décor. Et je vous révélerai pas exactement de quelle façon ça arrive, parce que ça serait un peu, je pense, gâcher quand même des belles idées au scénario. Mais c'est ça, on peut pas vraiment parler de triangle amoureux parce qu'évidemment c'est un frère et une sœur, mais il y a comme une espèce de jalousie qui s'installe parce que le frère se met à passer beaucoup plus de temps avec sa nouvelle blonde, puis il y a peut-être plus nécessairement le temps à consacrer à tout le temps comme traîner avec sa sœur. La sœur d'ailleurs, le personnage principal interprété par Anne-Élisabeth Bossé, qui dès l'ouverture en fait, on s'ouvre sur sa défense de thèse de doctorat en philosophie. Et il y a comme une espèce de discussion avec plusieurs des professeurs du département de l'université qui vont lui refuser un poste, en fait. Donc, elle vient comme un peu de faire 10 années d'études supérieures dans le vide, un peu. Et c'est comme ça un peu qu'il lance le film. Et on voit donc une jeune adulte, jeune trentenaire, ultra déprimée, qui sait pas trop quoi faire, puis qui est un peu, genre, justement, qui a besoin de son frère, peut-être, pour se changer les idées. Son frère, Patrick Yvon, lui, je pense que c'est lui vraiment qui est le MVP du film. Là. C'est vraiment une performance super cool. Patrick Yvon, on le connaît tous un peu. Je me rappelle pas s'il a déjà fait un espèce de premier rôle comme ça au cinéma.
À l'origine d'un cri.
Oui, c'est vrai. Il y a comme 3-4 rôles aussi dans ce film-là, principal. Mais ouais. Donc, à l'origine d'un cri, c'est peut-être son dernier gros rôle comme ça. Et il est vraiment super bon ici. Il est drôle, il a la réplique facile. Très bon scénario, très bon dialogue d'ailleurs. C'est sûr que c'est un genre de film. C'est impossible de ne pas parler de la filiation avec Xavier Dolan, qui je pense ne doit pas être vu comme une béquille nécessairement. Puis c'est un peu comme peut-être injuste de comparer le film de Mona Chakri à Xavier Dolan juste parce qu'elle a joué dans un de ses films. Mais je pense que les deux, quand même, artistes se côtoient dans la vie. Je pense qu'ils sont proches l'un de l'autre et ça se ressent. On sait que le court-métrage de Mona Chakri, quelqu'un d'extraordinaire, Xavier Dolan avait fait le montage. Et tu sais, il y a vraiment une espèce de mood, là, un peu les amours imaginaires 2.0. Là. Même genre de film où c'est moins le scénario qui est important que juste des espèces de longues scènes de discussion puis de réflexion acerbes entre les personnages. Il y a beaucoup aussi de trucs le fun, d'utilisation de silence parfois, de moments un peu plus poétiques. Et sans nécessairement que ça reste lourd. Je pense que, au contraire de Xavier Dolan, Mona Chakri va toujours essayer de désamorcer le drame et la tension dans ses scènes pour pas qu'on. Il y a comme pas de crescendo vraiment. C'est vraiment juste une espèce de. Comme, il y a tout le temps une remise à zéro de la tension narrative. Puis ça, c'est franchement intéressant. Ça fait un objet qui est comme beaucoup plus authentique. Et notamment, il y a aussi le personnage du père de ces deux frères et sœurs qui. Donc, un père tunisien, puis il y a comme tout son regard d'immigrant là-dessus, puis ça fait du bien aussi dans un film québécois de voir ça. Et ce personnage-là, il est super beau, tu sais, c'est pas juste... Tu sais, tous les personnages sont assez développés pour que ce soit pas uniquement qu'une caricature ou qu'un archétype particulier. Et puis, tu sais, faut pas oublier aussi que c'est un premier film. Je pense que il y a pas nécessairement eu les meilleures critiques à Cannes, mais tu sais, Cannes, c'est dur, là, c'est comme la crème de la crème. Et son film à Mona Chakri est comme franchement inspirant. Puis honnêtement, je pense que ça va être comme l'un des films de l'année du côté du Québec. Et j'ai très hâte que les gens le voient. J'espère qu'il va avoir un bon succès aussi en salle. Parce que en plus, c'est le gala des Iris ce soir, à l'heure où on enregistre. Évidemment, on revient sur la conversation, la fameuse conversation annuelle de est-ce que le cinéma québécois est assez vu? Est-ce que les scénarios se ressemblent tous? Est-ce que c'est trop gris, tout ça? Toi-même, Pascal, t'as un peu participé du débat public là, en partageant certaines infos et certains commentaires. Et je pense justement qu'un film comme La femme de mon frère, ben, c'est là justement là, qu'il faut en parler, qu'il faut dire aux gens, allez voir ça. C'est pas vrai qu'on fait que des films, là, des espèces de films gris sur quelqu'un qui est mort puis qui va aller passer le deuil dans une petite ville. Donc, c'est vraiment un beau petit film pastel, ben le fun, tourné en pellicule, super cool.
Donc, mais c'est drôle que tu dis ça, Paul, parce que tu sais que hier, sous le coup de l'inspiration, j'ai décidé de rédiger un top 10 films québécois pas gris des années 2010. Je vais t'envoyer ça là, pour que tu mettes ça sur le site. Là.
Pas étonné.
Pour chaque film, je donne un petit des raisons pourquoi que le film est pas gris. Puis puis pourquoi c'est bon aussi. Œil. Donc ça fera des belles suggestions de films lumineux ou différents. Ou de genre, ou des comédies, ou tout cela. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai... Puis, ouais, fait que, à suivre sur le blog écrit, hein, parce qu'on écrit des fois aussi, un petit peu, sur le point de vue.net, fait que, suivez la page Facebook, j'imagine, si vous écoutez le podcast, si vous suivez ça, vous allez sûrement avoir ça qui va tomber dans votre Internet dans pas long. Mais, ouais, c'est ça, là.
Dans votre Internet!
Dans votre Internet, en plein dans votre Internet. Rémi, pour finir, je sais pas si on finit, mais pour poursuivre notre couverture de Cannes la plus distante ever, mais The Lighthouse, des critiques dithyrambiques, puis ça, je suis sûr que ça va te... Robert Eggers.
J'ai tellement hâte, là.
Ouais, juste la photo promo, on voit les visages déconfits de Pattinson avec Willem Dafoe en noir et blanc, grainy, je sais pas, on dirait que déjà, je trouve qu'en une image, on capture une atmosphère, on capture quelque chose, là.
Ouais, puis ce que j'ai lu, c'est que le film a été tourné aussi avec de l'équipement d'époque, là, l'équipement des années 40-50, si je me trompe pas, fait que c'est très authentique comme projet, là, c'est... T'sais, c'est ça, là, il a utilisé des vieilles techniques pour avoir un rendu qui file vieillot. Mm. C'est vraiment sa force, là, t'sais, The Witch, c'était ça. Ça filait comme un film qui sort d'une autre époque complètement, juste avec la façon qu'il a travaillé le langage, qu'il a travaillé l'acting. Mm-hmm. C'était vraiment un... peut-être slow pace pour un public général, The Witch, mais ça reste un film qui est assez unique dans son genre. Je m'attends pas à moins de Lighthouse. J'ai comme regretté parce que le dernier podcast, on parlait des films qu'on attendait le plus qui passaient à Cannes. Mm. Qui m'a complètement échappé, celui-là, mais dès qu'il y a des articles là-dessus, je les lis. Je suis comme vraiment, vraiment primé. C'est une de mes grosses attentes là, cette année.
En espérant qu'il se pointe dans un grand festival de genre québécois près de chez vous, bientôt.
Oh, on va espérer ça.
Je ne sais pas. Pour vrai, les longs-métrages, j'ai pas le contrôle dessus, mais je me croise les doigts aussi.
Mais t'as peur, parlons-en, parce que moi, j'ai des choses à dire sur ça. Fantasia a fait une première annonce de titre.
Oui, parce que c'est à peine un mois, hein, du 11 juillet au 1er août.
Ça sent
Fantasia,
bien.
Qui, à chaque année, c'est comme le coup d'envoi des festivités un peu. Tu sais, c'est comme, c'est au milieu de l'été, il fait beau, il fait chaud, puis ça dure comme tellement longtemps, là, comme 20, 22 jours, quelque chose comme ça. Et ça permet vraiment de comme faire le plein de cinéma après un début d'année qui est quand même tranquille au niveau des festivals au Québec. Là.
Ouais.
Et hey, puis je peux-tu, je vais juste comme vendre ma salade, là, mais moi, je finis ma programmation cette année. En fait, je la livre demain. Puis je suis vraiment fier. Si vous voulez voir des bons courts-métrages, bon, il y a plein d'occasions là, à Montréal d'en voir à l'année, là, mais cette année, je suis particulièrement fier de la sélection. J'ai vraiment travaillé fort, là, j'ai mis beaucoup d'énergie. Dans le sens que j'ai regardé beaucoup de courts-métrages cette année, même plus que les précédentes. Là, c'est quand même une job, là, faire de la programmation. Puis, même si c'est super le fun, là, c'est une job vraiment tripante. Mais j'ai mis beaucoup de cœur dedans cette année, puis j'ai vraiment hâte de la partager, là, la programmation de cours. Puis même que je peux l'annoncer en exclusivité, là, ça va sortir bientôt, mais habituellement, on a 7 programmes de courts-métrages, puis là, j'en ai fait un 8e qui est un programme de minuit, fait que c'est des courts-métrages un peu plus de party, là, que je dirais. Je voulais ouvrir le festival un petit peu plus parce que, tu sais, reste qu'on... On prend des gros films. Il y a de plus en plus de courts-métrages qui se font, donc on prend des grosses sorties. Mais Fantasia, dans mon mandat, moi, je me dis aussi que je veux prendre du cinéma différent. Puis des fois, tu sais, c'est peut-être pas des... Bon, je dis pas que c'est pas des films de qualité, mais tu sais, c'est pas des gros films financés, mais qui ont tout à fait leur place à Fantasia. Donc, j'ai décidé de faire cette programmation-là, cette 8e-là, qui est une programmation, c'est ça, là, de fun, là, de court-métrage un peu plus léger, mais qui vont être là dans une ambiance de party. Fait que vous allez prendre un verre avant ça. Là, je sais pas, cette année, le Irish Embassy devrait être réouvert, là, le bar officiel de Fantasia.
Ouais, le QG.
Donc, allez caler des pintes au Irish Embassy, allez fumer du weed, c'est légal, à ce temps, je peux le dire sur le podcast. Puis après ça, venez voir la programmation de minuit, là, je pense que vous allez avoir vraiment du fun là-dedans.
C'est une invitation qu'on peut pas refuser, ça.
Hey, manquez pas ça.
Et bien sûr, appelez-vous un taxi ensuite pour retourner chez vous. Ne prenez pas
votre
véhicule.
Oui, soyez responsable. Soyez responsable.
Ouais, soyez responsable. Bon, dans la première vague de titres, moi, j'en ai quand même deux que j'avais vus à Berlin et ça donne qui était dans Génération, la section sur laquelle j'ai vu tous les films.
Ben oui, puis t'en avais parlé au podcast, c'était ton coup de cœur, là, un des films.
Ben moi, oui, mais et l'autre film que j'aimerais mentionner, si vous êtes sur la page, là, parce que c'est ça, sur le site fantasiafestival.com, vous avez des premiers articles là, sur la première page là, de nouvelles. T'sais, vous pouvez cliquer la première vague de titres, regarder ça un peu. Puis il y en a un autre, parce que évidemment, je vous avais vanté à qui mieux le film House of Hummingbird de la réalisatrice coréenne Kim Bora. Vraiment plus un drame aussi, hein. Fait que tu sais, des fois, ça prend des fois des films comme ça pour démanteler l'image que Fantasia, c'est juste des films de zombies puis de pow-pow puis de sci-fi. Là. Fait que House of Hummingbird, on est vraiment dans de la finesse scénaristique, c'est ça, là. Mais donc, et c'est coréen, en ce sens, il y a tellement beaucoup de place qui est laissée au cinéma asiatique à Fantasia qu'en ce sens, ça fait ça fonctionne. Mais c'est ça, c'est comme du counter-programming Fantasia-esque, peut-être, mais quel magnifique film! Donc, ça, vraiment, aller voir. Absolument.
C'est pas counter-programming parce que, tu sais, de base, Fantasia, c'est Fantasia.
Oui, oui, oui,
c'est la ça. Partie asiatique est aussi importante parce que le premier mandat initial de Fantasia, c'était d'amener le cinéma asiatique à Montréal parce qu'il n'y avait aucune façon de voir ces films-là sinon. Fait que c'était film de genre et film asiatique. Fait que ça reste dans le mandat, même si c'est pas du genre pur ou whatever, là.
Ouais, ouais, ouais. Mais merci de la précision, évidemment.
Excuse-moi, j'ai fait, ma paroisse.
T'as raison. Mais je veux quand même vous pointer sur un autre que je n'avais peut-être pas vraiment parlé lorsque j'avais fait un peu mon recap berlinois, mais c'est le film japonais We Are Little Zombies du cinéaste, un petit peu, là. Je vais le trouver. Makoto Nagaisa. Désolé d'avoir patiné puis cherché. Fait quoi, les We Are Little Zombies, c'est il y a comme une esthétique jeu vidéo-esque. Puis au début, le film commence, puis tu sais, la grosse pétarade de style, puis What the fuck Japan, crinqué à 11, là t'es comme, ok, puis là tu regardes le running time du film, c'est un bon 2 heures plus, puis là t'es comme, comment ce film-là va se soutenir dans sa nouveauté, puis dans ses effets, tu sens que, sans que ça s'essouffle, hein, c'est toujours ça un peu le problème de partir ton film, la pédale sur le gaz, puis après ça, ça prend quelque chose pour nous raccrocher, pour nous garder un peu éveillés, parce que ça peut étrangement anesthésier, tu sais, un film qui a quasiment trop d'idées, puis qui les met toutes dans ses premières minutes. Mais We Are The Zombies, en fait, recèle d'idées neuves tout le temps, vraiment. C'est crinqué à 11, mais ça se soutient à 11, de A à Z. Puis quand on pense que la nouveauté s'effrite, il y a toujours quelque chose, il y a une curveball narrative, le récit s'en va dans une direction imprévisible. Donc si c'est pas un effet qui nous regarde sur nos pieds, c'est carrément le récit. Puis c'est sûr, grosso modo, là, un orphelin qui a comme pas d'émotion, juste blasé un peu de son existence, perd ses parents, puis même ça, on dirait qu'il est juste pas capable de pleurer ou de se sentir comme touché ou triste par le décès de ses propres parents. Puis il découvre d'autres orphelins qui sont un peu comme lui, un peu anesthésiés justement de leurs propres émotions. Puis ils finissent par partir un genre de band de musique, mais j'en dirais vraiment pas plus parce que même là, il y a tout comment ça se passe, c'est absolument saugrenu et drôle et complètement imprévisible. Donc We Are Little Zombies, celui-là aussi, le mettez-le sur votre radar, super film japonais. Puis tu sais, les films japonais, on dit souvent, ah, pour X raison, il y a pas tant de cinéastes de jeunes cinéastes comme de nouveaux cinéastes qui ont des voix fortes, que c'est un cinéma comme plus de grands maîtres où on sait pas trop, on a de la misère à trier puis à découvrir des nouvelles voies. Ben ça, c'est un premier long et c'est vraiment très 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 cool. Fait que ouais, je voulais le mentionner.
Je voudrais aussi mentionner en fait une restauration d'un film d'animation qu'on avait écouté ensemble. Je sais pas si vous étiez là les gars chez nous, on l'avait écouté à un moment donné dans une de mes soirées chez nous, le film Son of a White Mare, Ferolofia. C'est un film hongrois d'animation, 1981. Et c'est vraiment comme hallucinant comme film. Vraiment comme un film psychédélique, à fond la caisse. C'est vraiment... Puis je me rappelle pas trop de l'histoire. Là. C'est une espèce de juste une espèce de fable de comme quelqu'un qu'il faut qu'il ait porté dans un château, un truc. Puis il y a des frères. Puis tu sais, je me rappelle pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Mais les images, là, je vais toujours m'en souvenir. Une espèce de... Il faut vraiment aller voir une bande-annonce ou des images pour comme comprendre ce que c'est. Super coloré. Et là, c'est avec la première mondiale en fait de cette nouvelle restauration. Donc, ça risque, pour les fans d'animation, pour vrai, c'est comme un film qui ressemble un peu à rien d'autre. Puis c'est souvent ça que je cherche en fait en animation parce que je trouve qu'il y a trop de films d'animation qui se ressemblent, évidemment, qui vont suivre un peu les recettes établies soit par les studios Ghibli ou par Pixar, tout ça. Mais tu sais, un espèce de film d'animation qui ressemble à rien d'autre, là, ben ça, c'en est un bel exemple. Donc, vous irez voir ça à Fantasia.
Ouais. Puis toi, Rémi?
Ben là, moi, j'ai prêché les courts-métrages, mais... Pour vrai, je sais pas trop quoi vous annoncer, mais... Ah, oui. Il y a le documentaire sur Phantom of the Paradise que moi, je suis vraiment excité, là. Moi, je suis plus dans les petits trucs série B pis tout, là, mais Phantom of the Paradise, c'est un film que j'adore. Un film de Brian De Palma qui est déjà considéré comme son erreur de jeunesse. Ouais, j'avais déjà vu ça dans une entrevue. Mais il y a tellement un cult following sur ce film-là qu'ils ont fait un documentaire qui va être présenté à Fantasia. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Puis c'est dans le cadre de l'hommage aux producteurs aussi.
Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Mm-hmm. Puis l'autre chose aussi qui va sûrement être vraiment le fun, c'est la suite de Critters. Connaissez-vous la série Critters?
Vite fait, là, mais... J'ai des vagues souvenirs, mais c'est pas une série.
C'est le meilleur rip-off de Gremlins qu'il y a eu. Tu sais, comme après la vague de Gremlins, bon, des petits monstres faits en latex, là, ça pogne. On va en faire une nouvelle série pour pouvoir cacher là-dessus. Ben, Critters, c'est quand même cool. Le troisième a même donné la place à Leonardo Leonardo DiCaprio pour un de ses premiers rôles. Puis là, ça a l'air que parce que la nostalgie fonctionne tellement bien, ben, ils ont décidé de refaire un long métrage. Il y a une série télé et un long métrage qui sont sortis, une série pour Shudder. Puis ce long métrage-là.
Okay, fait que c'est un nouveau film, là, The Critters.
C'est un nouveau film. C'est la formule miracle, la Fantasia. Ça, c'est toujours des projections ultra le fun. L'année passée, il y avait eu un nouveau Puppet Master. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment pour les amateurs du genre, mais même si c'est complètement stupide, le meilleur contexte pour voir ces films-là, c'est dans un festival comme Fantasia, ouais, avec une salle pleine de monde qui crie. Puppet Master, c'était épouvantable, mais il y avait tellement de gore puis de kill dedans que la foule de Fantasia réagissait à toutes les deux minutes, puis c'était super cool. Fait que ça, c'est des projections qui sont à attendre, je pense, à Fantasia.
Ouais.
Donc, j'irais pour ça.
Puis, tu sais, vous savez, en plus que moi, ben justement, un peu revenant du Japon et tout ça, je m'intéresse beaucoup au cinéma japonais ces temps-ci. On dirait que j'ai un petit biais positif pour aller cueillir tout ça. Puis, avec ma copine et moi, on s'est tout retapé l'intégralité de la filmographie d'Hayao Miyazaki.
Ouais, rien de
moins. Eh bien, à Fantasia, je vois ça dans la vague de titres. Un concert, c'est l'orchestre avant de musique de film de Montréal qui, ben finalement, tu sais, c'est Joe Hisaishi, là. C'est vraiment. Miyazaki puis Joe Hisaishi, c'est une collaboration comme en or, puis fait que ce serait l'occasion de voir un concert avec la musique éternelle de Mononoke, de Totoro, de Castle in the Sky, de Spirited Away, de Nausicaa, de tous ces films là. Fait que ouais, ça aussi c'est à mettre à l'agenda, là. Je pense que c'est un beau moment cinéma et musique.
Rémi?
Ouais.
Parlant de films un peu stupides, mais qui est mieux d'aller voir en salle avec plein de monde.
Ouais.
T'as tellement bypassé ma parenthèse. T'es comme, tu fais ta transition prête. Puis là, j'ai comme dit de quoi. Puis là, t'es revenu en arrière.
Paul.
Puis t'as complètement bypassé ma parenthèse.
Parlant d'anime japonais...
tu fais ce que tu veux avec tes transitions, dans le fond, Paul. T'inventes tes règles.
OK, OK. Pascal?
Oui?
Parlant de cinéma japonais réalisé par des maîtres.
Oh!
Rémi, t'as vu Détective Pikachu de Rob Letterman?
Wow!
Ouais!
Non, mais je suis curieux de t'entendre parler de ça. Ouais. Donc, Détective Pikachu, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc une grosse production, une méga production, ouais. un méga pari du studio Warner. De mettre en image avec des vrais acteurs et beaucoup de CGI le monde de Pokémon. Et cette fois-ci, en fait, c'est basé sur un jeu vidéo précis, en fait, qui est comme vraiment pas un des jeux principaux pour que les gens sont peut-être familiers, mais qui est comme un spin-off qui s'appelle Détective Pikachu, dans lequel la mascotte officielle de Pokémon, Pikachu, ce jeune raton jaune,
C'est un raton?
C'est un raton.
Pour moi, c'est un Pokémon. Je sais pas,
Pokémon jaune.
Ouais.
Qui est donc qui est un détective et qui doit résoudre un mystère.
Ouais.
Et donc version super turbo chargée de la franchise avec on se paye aussi Ryan Reynolds pour faire la voix de Pikachu parce que dans le fond il y a un seul jeune garçon qui peut entendre Pikachu.
Ouais.
Tous les autres entendent seulement parce que pour ceux qui savent pas les Pokémon ils font seulement répéter leur propre nom. Donc, Pikachu, il dit tout le temps comme Pika Pika dans la série animée et dans les jeux vidéo.
Ouais.
Mais là, dans ce film, on a décidé, pour peut-être aussi que ce soit pas trop répétitif, de laisser le jeune garçon entendre les pensées et la voix de Pikachu.
Ouais, puis il y en a qui appellent ça Deadpool Pikachu, là, Pokémon Deadpool, là, parce que c'est quand même... C'est Ryan Reynolds qui craque des jokes comme Deadpool, mais dans la personnalité de Pikachu. Vraiment spécial comme truc, là.
Ouais, parce qu'il y a quand même un côté très... C'est ça, on brise le quatrième mur un peu. Là. On est un peu dans la farce postmoderne. On est comme... on fait un clin d'œil au public à toutes les deux minutes. Puis...
J'ai juste une question pour vous, les gars. Juste une.
Mm-hmm.
Est-ce que, avec Détective Pikachu, la malédiction des adaptations de jeux vidéo est enfin brisée? Ou pas?
Ah!
Parce que c'est aussi que c'est rare, man, que les films adaptés d'un jeu vidéo. Il y avait Ace Attorney de Takashi Miike que j'avais beaucoup aimé.
Ouais, parce que c'est Takashi Miike qui a mis du cœur dans un jeu complètement bizarre en plus.
Si je me forçais à chercher, il y en aurait peut-être quelques autres, mais on s'entend que la moyenne au bâton des adaptations de jeux vidéo au grand écran, c'est pas fort. Alors qu'en est-il de Détective Pikachu?
Ah, mais moi j'y allais un peu en sachant, tu sais, en connaissance de cause, là, j'y allais pas en me disant je vais aller voir le film de l'année. C'était vraiment par nostalgie, puis je pense que c'est le gros facteur qui accrochait le monde. J'y allais en sachant que la cote sur Rotten Tomatoes, c'était 60% à peu près. Ce qui probablement, au final, le film vaut à peu près ça. C'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire? Je pense qu'il faut juste y aller en sachant ce que c'est, puis en le prenant pas pour plus que ce que c'est. Là. Ce que je reprochais, on a parlé un peu de Us tantôt hors d'onde. Là. Puis tu sais, on parlait du truc que je disais que les gens défendaient Us en disant « Ah, mais c'est faut pas trop y penser. » Ben écoute, je vais le mettre à Détective Pikachu parce que c'est Détective Pikachu. Ouais. Là, je pense que, on regarde le titre, puis je pense pas que tu peux t'attendre à du grand cinéma. Ça remplit-tu son mandat? Je pense que le meilleur truc de ce film-là, c'était qu'ils ont décidé de ne pas reprendre le canevas de la série animée Pokémon ou de reprendre le canevas des jeux, mais d'aller dans une autre direction. Je pense pas que ça suit exactement le jeu vidéo Détective Pikachu. Je pense qu'ils ont repris le concept, mais c'est pas exactement le même storyline. Mais je pense que d'avoir choisi une autre trame puis d'évoluer dans le monde des Pokémon puis d'introduire ça comme ça, c'était la meilleure décision qu'il aurait pu prendre. L'autre bonne décision, c'était de casser Ryan Reynolds parce que c'est vraiment drôle, mais c'est comme... Ils connaissent leur public. Là. Ils savent qu'il va y avoir des enfants qui vont le voir, mais il y a énormément de jokes pour les adultes. T'sais. Dans les premiers 10 minutes, il y a des jokes de sexe, des jokes de cocaïne. Il y a une joke de coke là, dans le début du film là, où Pikachu parle de l'autre gars qui a sniffé quelque chose sans dire ce que c'est, mais c'était comme... C'est vraiment trash, là, les jokes. Puis ça a le feeling que Ryan Reynolds a dit de la shit dans un micro pendant une couple de jours, puis ils ont pris des extraits en se disant « Hey, cette joke-là est vraiment drôle, la passes-tu? OK, on peut la fitter là. » Tu sais, puis il avait sorti même des hot takes là, en ligne de Ryan Reynolds qui dit des trucs un peu trop trash pour le film. Donc, écoute, ces facteurs-là font que le film est vraiment divertissant. Moi, ça m'a vraiment surpris ça. Il y a des gens qui ont chialé un peu sur les character design. Moi, ça passait.
Pour autant que Sonic, man. Pour autant que Sonic.
Mais non, c'est ça. C'est comme... Puis c'est... Ouais, il y a une couple de Pokémon qui sont un peu weird, là, genre en vrai. Mais, tu sais, genre Pikachu, je sais pas comment il aurait pu faire mieux que ce character design-là. Ça passe très bien pour moi. Ce qui, pour moi, est un peu pourri, c'est les scènes d'action. Ce qu'on aurait aimé peut-être dans un film de Pokémon, avoir des bonnes scènes d'action. Il y a comme un vrai gros duel qu'on voit beaucoup dans la bande-annonce déjà. Sinon, il y a une couple de scènes d'action où tu le sais là, qu'ils vont s'en sortir. Puis il y a comme aucun... pour moi, comme cinéphile qui n'est pas un kid là, de 12 ans, là, j'ai pas senti de stress ou de tu sais, que les personnages n'allaient pas s'en sortir. Fait que pour moi, les scènes d'action, c'est des gros CGI mess. Là. Sinon, pour ce qui est du facteur sympathique du film, écoute, l'intrigue se tient, surprenamment. Il y a vraiment une intrigue, il y a une enquête qui se fait. Ça se tient pour ce que c'est, pour un film pour enfants, l'enquête se tient. Les jokes sont drôles, les designs sont le fun. Moi, j'avais le facteur nostalgique qui cliquait, là, j'avais hâte de voir les Pokémon popper. Puis je pense que ça a marché avec les kids parce que quand je suis allé en arrière de moi, il y avait 5 kids qui étaient assis là. C'était peut-être la fête d'un des kids parce qu'ils étaient tous déguisés en Pikachu. Il y avait des One Piece de Pikachu avec leur sac de popcorn. Puis les kids, ils ont trippé. Là. Ils nommaient les Pokémon pendant le film. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, là, des avoirs en arrière. Ça rajoutait un peu d'ambiance dans la salle. Puis c'était comme... Ça fait que tu connectes un peu avec ton cœur d'enfant aussi. Donc, c'est ça. C'est pas un film que je vais aller recommander, mettons, à des gens qui ont pas écouté Pokémon. Je dirais pas à mes parents, « Hey, allez voir Détective Pikachu, c'est malade. » Ça vaut son 60%. Ça vaut ce que c'est. Il y a le facteur nostalgique qui est là. Ils savent que ça va marcher, ça va cliquer avec les... c'est vraiment pas la pire adaptation de jeu vidéo. Pour moi, c'est un... Ouais, ouais, c'est un... C'était le fun. C'était bien le fun. Je suis sorti, j'étais content, là.
Puis, Monsieur Landrio?
Ouais, ben, je te rejoins globalement sur ce que tu dis, Rémi. Il y a quand même quelques trucs que je trouve que c'est des grosses faiblesses, comme du projet depuis le départ. C'est que une de ses forces, qui est également une faiblesse, c'est que le film s'adresse vraiment à un public qui connaît ça. C'est bien parce que t'as pas besoin de passer plein de temps à expliquer c'est quoi le monde des Pokémon et tout ça. Mm-hmm. Il y a une espèce d'économie narrative qu'on peut se permettre en assumant que le public qui va aller voir le film est au courant de l'univers puis connaît ce que c'est. Mais ça en fait aussi un film donc qui est à peu près qui doit vraiment être plate pour un public de non-initié. Tu parlais de tes parents, Rémi, ça, comme quelqu'un qui connaît pas Pokémon, je me dis il doit vraiment comme. Il finira pas le film. Là. C'est sur Netflix, au bout de 15 minutes, il va passer à autre chose. Comme, qu'est-ce qui se passait? Parce qu'il y a vraiment des. Tu sais, il y a des incohérences que ça passe dans un jeu vidéo, ça passe, tu sais, quand tu as vu l'animé de, comme plusieurs épisodes, ouais, puis tu dis ouais, mais c'est Pokémon, là, faut pas trop se casser la tête, tu sais. Parce que, je veux dire, puis il y a certains points qui vont quand même un peu aborder, comme la question du fait que, dans le fond, c'est un peu comme des combats d'animaux organisés à l'échelle, genre, globale.
OK, OK, bon, il aborde ça un peu, parce que c'est toujours ça qui est un peu weird, là. Ouais. Dans une ère de conscience sociale, là, cruauté animale, là, on repassera, là.
C'est ça, ben, c'est la prémisse de l'univers, puis il l'aborde un peu... il pousse pas vraiment beaucoup, là. Mais tu sais, comme dans le fond, dans une ville fictive, ben, dans cette ville-là, les Pokémon et les humains cohabitent ensemble. Tu sais, les Pokémon ont des travails, que ce soit justement détective ou autre chose. On voit à un moment donné, il y a une scène, des pompiers qui éteignent un feu, puis les Pokémon qui pitchent de l'eau. Mais tu sais, tu te dis comment ça que c'est la seule ville au monde qui est comme ça? T'sais, pourquoi? Fait, genre, dans le reste du monde,
ouais, c'est ça.
C'est bien correct qu'on fait de la chasse aux Pokémon, puis let's go.
Mais il y a un truc, tu sais, dans la mythologie de Pokémon, c'est que, tu sais, les Pokémon se heal un coup qu'ils sont defeated, là, qu'ils sont mis à terre. Puis habituellement, ils récupèrent. Mais là, on voit comme des combats clandestins dans la ville. Puis il y a genre un. Je pense que c'est un Charizard qui a comme la face brûlée. Tu sais, il y avait comme un Pokémon qui a comme des cicatrices puis tout, pis c'est comme... OK, là, dans cet univers-là, là, on vient de mettre la convention que les blessures restent, là. Là, ça, j'ai trouvé ça un peu edgy comparé à l'animé où c'est pas grave, tu sais, ah, il s'est fait planter, mais on va aller à l'hôpital mettre la Pokéball sur un stand, puis il va se guérir miraculeusement, là.
Mm. Ouais, fait que ça, c'est comme... Quand on parlait, justement, de mettre son cerveau à off, je pense que c'est genre un peu de considération, puis le truc, c'est comme, ben, accepte que dans cet univers-là, ça marche comme ça, sinon t'auras pas de plaisir, tu sais. Mm-hmm. Puis l'autre chose, c'est que je trouve quand même que le film a de la misère à définir c'est qui son public cible, pas nécessairement en termes de univers ou pas, mais entre une espèce d'une jeune aventure Spielbergienne, amusante et inspirante,
ben c'est ça,
et l'espèce de commentaire métanarratif de Pikachu / Ryan Reynolds. Moi, pour vrai, ça m'a un peu distrait, puis je pense pas que la plus-value est là. Évidemment, commercialement, c'est un bon coup, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça, l'idée derrière ça, c'est que on a une franchise méga japonaise qui est comme quand même très connue auprès du public des joueurs de jeux vidéo, qui est très connue en Asie, qui est pas nécessairement une grosse franchise tant que ça pour ceux qui connaissent pas les jeux vidéo. Et on essaie peut-être de rendre ça, tu sais, plus accessible. Mais je pense pas que d'ajouter la voix de Ryan Reynolds qui fait des jokes aux 5 minutes, je pense pas que c'est vraiment ça qui convainc. Puis pour moi, je trouve que c'est un peu comme l'histoire prend tout le temps des petites pauses pour dire bon, on va faire une couple de jokes. Puis. Fait que bon, je trouve que le film est comme. Il y a de la misère à trouver un peu son ton. Alors que, il me semble que les 10-15 premières minutes sont vraiment inspirantes, sont vraiment le fun. Justement parce qu'on dirait qu'on essaie pas d'expliquer, on fait juste, tu sais, voir des grandes des espèces de establishing shots, ouais, de paysages de la ville, tout ça, puis de voir un peu juste de quelle façon les Pokémon évoluent dans cet univers-là. Puis ces grands plans large, en fait, c'est un peu mes plans préférés du film, puis ça me rappelait beaucoup, en fait, Ready Player One.
Mm-hmm. Ouais.
Où on a une espèce d'univers inspiré par le jeu vidéo virtuel, où t'as comme tous ces personnages-là, puis tu sais, au final, ce que j'aimais le plus de Ready Player One, c'était juste cette espèce de... tous ces personnages qu'on côtoie, puis qu'on n'a pas tant besoin d'expliquer tant que ça, tu sais. Comme ça, les fans comprennent, puis ils sont très contents de voir tout ça aller, puis c'est vraiment, finalement, c'est notre imagination qui fait le reste, parce que là, tu dis, OK, s'il y a des Pokémon tortues qui vont aider à combattre le feu, qu'est-ce que les autres Pokémon peuvent faire? Puis là, tu te mets à réfléchir pendant que le film, tu sais, continue. Puis ça, c'est quand même... Tu sais, il y a vraiment comme un gros potentiel que je crois qu'il n'est pas vraiment réalisé avec ce film-là. On le sait qu'ils essaient d'en faire une franchise puis qu'ils veulent établir ça comme étant un truc rentable.
D'autres enquêtes où là, on va scraper le côté détective pour se focaliser plus sur le côté Pokémon? Parce que
mais là,
c'est dur à
la
dire.
La légende raconte que ça serait le premier film du Smash Bros. Universe.
Oh, ouais,
parce qu'il y a comme... Il y a une scène d'action sur des ballons comme dans Super Smash Bros. Le niveau de Pokémon sur des espèces de ballons qui flottent. Là.
Oh non.
Fait que là, ils sont comme... Ouh, est-ce que c'est le début d'une... Parce qu'ils sont censés... Illumination sont censés faire un film de Mario en plus.
Mm.
Fait que là, ouh, est-ce que les franchises vont commencer à... En tout cas, c'est ton... Mais moi, il y a une autre affaire aussi que je veux juste peut-être souligner, mais c'est l'acting que... Tout le long, en fait, j'étais confus de si c'est du bad acting ou si c'est un choix de jouer comme un peu off parce que c'est basé sur un animé, puis tu sais, tout le monde est un peu plus grand que nature dans l'animé parce qu'il y avait des vraiment mauvais acteurs là-dedans. La fille, là, la journaliste, elle est épouvantable. Tu sais, puis une chance que Ryan Reynolds est quand même cool, même si, comme tu dis, Paul, des fois, on dirait que ça file un peu comme du remplissage. Ryan Reynolds est très charismatique, mais il y a du stiff acting là-dedans. Puis le méchant, moi, je capotais, ben méchant, gentil, il y a une ambiguïté, là, vous verrez dans le film, mais c'est Bill Nighy. Ça, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait dans ce film-là?
Oh,
il
ouais.
devait rien comprendre de ce qu'il faisait, là. Tu sais, il l'a sûrement fait pour ses petits-enfants. Pis c'est comme, je vois pas Bill Nighy voir un scénario de Pokémon faire « Fuck yeah, les Pokémon, j'adore ça, t'sais. »
Ben, c'est plus comme...
Bizarre. Non, il a vu des zéros.
Il a vu le chèque,
ouais,
là,
ça,
à côté.
Il a vu des zéros
là,
à la fin de son chèque, là.
Ouais, ça, je capotais, mais Bill Nighy, il est bon, là, t'sais, mais il est tout le temps bon, mais t'sais, c'est... En tout cas, mais c'est les autres personnages, là, pis le protagoniste aussi, qui est comme le personnage principal, là, qui traîne avec Pikachu, et t'sais, c'est pas... Il chaîne pas là à l'écran, c'est un peu stiff là, on va se le dire là. Mais bon, Bill Nighy est là. Ça, c'est l'important. Fait que c'est ça.
Donc, pour répondre à ta question, Pascal, est-ce que c'est le film qui vient briser un peu la malédiction des films de jeux vidéo? Je pense que non, parce que même si c'est un film qui est sympathique, puis qui est le fun, puis c'est vraiment bien réalisé au niveau des effets spéciaux, puis du design, tout ça, ça, il n'y a rien à redire, c'est impeccable. Mm-hmm. Reste que c'est un film vraiment qui s'adresse à son public, tu sais, qui connaît les Pokémon. Donc, en ce sens, je pense pas que c'est comme le film de jeux vidéo qui peut un peu
rallier,
faire le pont entre les deux publics.
Ouais, ouais,
puis,
ouais.
Puis tu sais, peut-être. Puis justement, comme Ready Player One, c'était un petit peu ça, même si c'est pas basé sur un jeu en particulier, c'est vraiment basé sur un peu ce que sont les jeux vidéo, puis ce que ça pourrait être et tout ça. Tu sais, Ready Player One, c'était déjà un peu ça aussi, même si je pense pas que c'est une réussite totale. Pacific Rim, bon, c'était pas basé sur un jeu vidéo, mais t'as beaucoup la logique. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, je mets un peu tous ces films-là dans le même panier. C'est un peu comme des blockbusters spectaculaires qui remplissent leur mandat de film d'été sans être une coche au-dessus, peut-être, là. Mm-hmm. Puis je sais qu'il y a des gens qui défendent ardemment Pacific Rim, là, mais même ça, je trouve c'est pas un film que je revisite, ou je trouve que
non.
C'est bien réalisé, mais c'est un peu superficiel là.
Ouais, c'est ça.
Bon, ben,
60% Rotten Tomatoes. Écoutez les critiques des fois.
Tout à fait.
Mais moi, je peux-tu faire une petite parenthèse, Paul?
Oui.
Parce
oui,
que dernier épisode, on a parlé de Endgame, de Avengers.
Oui.
Puis moi, je l'avais pas encore vu. Puis même que, tu sais, on finit toujours par revenir au maudit film de super-héros là, sur le podcast, même si on dit qu'on s'en sac. Puis moi, j'en avais manqué 3 dans la série, mais je me suis dit, bon, je vais aller voir Endgame quand même au cinéma pour. T'sais, c'est quand même. T'sais, j'en ai quand même vu peut-être 18 dans la franchise. Je vais finir ça en beauté puis aller voir au cinéma. Puis écoute, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment, vraiment aimé l'expérience. Puis je regrette pas d'être allé voir sur grand écran. C'était bien différent du précédent. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme 3 films dans le film parce que le film se renouvelle un peu à chaque heure. Chaque acte est comme découpé dans différentes missions pour atteindre leur but final.
Okay.
Pascal!
Non, je t'écoute.
OK, ouais. Il est pas sûr, pas convaincu. Mais je me suis laissé prendre au jeu. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Tandis que j'ai même aimé mieux Endgame. Je sais pas si c'était un contexte que Endgame, je l'ai vu au cinéma, puis l'autre, je l'ai vu sur ma télé, sur Netflix. Mais j'ai vraiment aimé comment ils ont rappé la franchise. Bon, il va en avoir d'autres, là, on s'entend.
Ouais.
Mais ils rappent cet univers-là qui a débuté avec Iron Man. Puis je trouve que ça a été vraiment fait avec soin. Ça a été fait... Bon, c'est un film qu'on peut pas voir sans en ayant pas eu le contexte des autres. Là. Tu pourrais pas commencer à regarder les Avengers en commençant par Endgame, mettons. Mm. Tu comprendrais fuck all de ce qui se passe.
Ouais.
Mais dans un contexte où ça clôt la série rendue là, c'est vraiment... Je sais pas comment il aurait pu mieux faire ça. Il y a la fin de quelques personnages, il y a quelques acteurs qui sont censés dropper la série après. Bon, on s'entend que dans 10-15 ans, quand ils vont avoir besoin d'un chèque, ils vont sûrement revenir sous forme d'hologramme ou whatever. Là, il va sûrement avoir une façon qu'ils vont les ramener. Mais dans sa structure, je trouvais que ça se tenait bien. Il y avait un bon payoff. Les scènes d'action étaient bien balancées avec des scènes de dialogue ou de bonne camaraderie, des scènes d'humour. Les scènes d'action sont épique as fuck. Ça devient un petit peu bordélique là, vers la fin. Là, j'étais crampé dans le cinéma parce que, tu sais, il y a un gros combat final. Je pense que c'est pas un spoiler. On s'attend tous à ça. Oh, ouais. Où il y a tous les personnages que vous pouvez penser de la franchise sont là. Puis tes voix se battent. Puis ça, j'étais crampé parce que ça se peut même pas là, à quel point il y a du stock qui se passe à l'écran. Mais on parlait de Ready Player One, ça me faisait vraiment penser à ça, les scènes d'action, là, les scènes de combat. C'est juste que je trouve que moi, Ready Player One, j'ai pas capoté. Je serais quand même curieux de voir de réécouter le podcast qu'on avait enregistré parce que je sais pas si je dis ça exactement, mais c'était quand même bordélique ces scènes-là. Puis je trouvais que là, au moins, on était capable de suivre l'action. On reste des. Tu sais, il y a même une game de patates chaudes là, où les Avengers se passent un objet de main en main. Mm-hmm. Puis, on réussit à se promener dans l'action avec des différents personnages, mais sans que ça devienne juste un gros blob d'action où on perd complètement le focus de ce qui se passe. Donc, moi, j'ai fini, puis j'étais satisfait, puis j'ai même versé une larme. Je me suis vraiment laissé prendre au jeu, là. Ça marchait super bien. Puis, j'ai eu les larmes aux yeux un moment dans le film. Fait que, t'sais, bravo, là, ils ont rempli le mandat, puis c'est ça, là, t'sais, c'est...
Ben 21, ça reste que... 21 films plus tard, t'as eu un peu d'émotion, bravo, c'est cool.
Hey, non, mais il y a quand même une couple de films que j'aime dans la franchise, mais t'sais, my God, t'es cynique, ça n'a pas d'allure. Mais oui, moi, j'ai vraiment embarqué, fait que je voulais juste donner mon petit heads-up là-dessus, voilà, mais là, c'est assez, là.
Parfait. Pour les quelques personnes indécises encore, là, tu sais, qui attendaient juste notre preview.
Je pense que tout le monde qui voulait voir Endgame l'ont déjà vu, là, ouais, mais bon.
Bon, ben, écoute donc.
C'est ça. Rémi Fréchette, approved.
Mm-hmm. Cool, mais c'est pas Rémi. Pascal?
Oui, oui, de moi, oui, oui.
Parlant de blockbuster au budget infini avec un casting de 60 personnes.
Oh, ouais.
Tu as vu le film nommé Osiris à tous ceux qui ne me lisent pas de Yann Giroux?
Ouais. Non, mais je savais que t'allais dire ça parce qu'il m'a demandé avant le podcast qu'est-ce de quoi je veux parler, puis il dit ça, puis il reste pas mal juste ça au menu. Fait que je me suis dit, okay. Il va me troller dans sa transition. Ben oui, j'ai vu ça. C'était le seul film nommé finalement ce soir que dans les meilleurs films de fiction que je n'avais toujours pas vu. Et je l'ai vu en fait parce que aussi, c'est que la plupart des films sont disponibles en location. On est un petit peu moins gâtés que l'année dernière avec ce qu'on appelle le sprint pré-gala. Là, tu sais, l'année passée, il y avait vraiment beaucoup de, même des longs métrages qui étaient disponibles gratuitement, là, tu sais, sur la fenêtre de 2 semaines qu'ils donnent pour visionner les films. Là, je pense que c'est parce qu'il y a une entente, je pourrais me tromper, mais avec Tout.tv Extra, parce que la plupart des films qui sont pas déjà en VOD ou qui n'ont pas profité de ce temps-là pour le mettre en VOD sur différentes plateformes, que ce soit Vimeo, iTunes, n'importe quoi, ils sont disponibles sur Tout.tv Extra. Fait que je pense que c'est ça, là, c'est le coup de pied pour essayer de s'inciter à s'inscrire. Moi, c'est juste, j'ai tendance à préférer le système location unique parce que j'ai déjà certains services. T'sais, on en parle souvent dans les podcasts, des services de streaming. T'sais, c'est super. Écoute, on a plein de possibilités, mais t'sais, quand t'es abonné Mubi, Criterion Channel, je sais pas, ben moi, je suis pas Netflix, mais ou Netflix en plus, t'es comme, OK, ça s'accumule. Fait que là, t'sais, Tout.tv Extra, c'est fun, t'as envie de l'encourager pour plusieurs raisons, mais moi, en tout cas, tout ça pour dire que je l'ai loué à la pièce à tous ceux qui ne me lisent pas. Je l'ai loué sur iTunes, là, comme quelqu'un qui n'est pas sur Tout.tv Extra. Et non, mais c'est cool, là, Tout.tv Extra. J'ai rien contre Tout.tv Extra. Bon, qu'en pense-je du film de Yann Giroux?
Ben, le premier long métrage de Yann Giroux.
Premier long métrage.
Martin Drainville. Martin Dubreuil, dis-je bien.
Oui.
Dans le rôle principal. Yann Giroux qui a fait une carrière de court métrage très remarquée. Il a fait plusieurs courts métrages qui ont circulé, qui ont gagné plusieurs prix à travers le monde.
Absolument.
Et son plus récent, Lost Paradise Lost, qui était en nomination aux Iris l'an dernier, ou...
Ouais, je pense que c'était l'an dernier, si je ne m'abuse. Là. Oui, oui, oui.
Donc,
puis, moi, j'avais rencontré le travail de Yann Giroux en 2012 ou en 2013, dans ce cas, quand il avait fait un court-métrage qui s'appelle Le Surveillant, que j'avais trouvé franchement bien fichu à l'époque. Là, une esthétique, tu sais, des plans séquences, c'est steadicam, je crois. Ça pourrait être, tu sais, à cette heure, des fois, c'est difficile de savoir parce qu'il y a toutes sortes de gimbales ou des trucs de stabilisation, mais je suis pas mal certain que c'est de la steadicam. Puis dès le premier plan, au fait, à tous ceux qui ne me lisent pas, qui est quand même, on va le dire, d'entrée de jeu, ça parle d'un poète, là, Yves Boisvert, poète qui a réellement existé, puis qui était réellement une personne influente là, dans la vie de Yann Giroux, là, du cinéaste. Puis, le film parle de façon large de passation, tu sais, de ces personnes-là qui nous ont inspirés, ou tu sais, surtout quand on est adolescent, puis qu'on se sent, tu sais, quand on a la petite sensibilité de l'artiste, mais des fois, nos amis immédiats sont pas nécessairement dans ce milieu-là, on n'a pas nécessairement des parents qui nous ont ouvert à certaines choses, bon. Puis là, on tombe sur cette personne-là qui nous met les étoiles dans les yeux, puis qui nous montre un peu la possibilité de la culture. Ben, clairement, Yves Boisvert était de cette personne-là, et Yann Giroux, au point où Yann Giroux en a fait son premier long, puis on sent que ça vient du cœur, parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'a frappé dans le film, c'est à quel point c'est beau, le contexte de passation, puis finalement, oui, c'est beaucoup avec Martin Dubreuil, parce qu'il joue le personnage de Yves Boisvert, c'est vraiment le film commence et se clôt avec lui. Mais je t'avoue que moi, la révélation ou la porte d'entrée au film se passe beaucoup par le fils qui est joué par Henri Picard, là, qu'on avait vu aussi dans Les Rois mongols. Parce que, je vais faire un synopsis très rapide, donc Martin Dubreuil joue ce poète, mais qui dans le fond, c'est un anarchiste, quasiment un clochard aussi, mais juste comme un genre d'artiste en rébellion qui vit un peu d'amour et d'eau fraîche. Mais en même temps, là, il arrive à bout là, parce qu'il se fait expulser de son appartement. Puis là, séduit une femme, là, interprétée par Céline Bonnier, Diane, dans le film, qui, elle, elle fait de la publicité, du design graphique, tout ça. Bon. Et... une femme, donc, qui a un bon salaire et qui est dans une autre classe sociale, oui, que le personnage du poète. Puis là, il y a comme cette romance-là qui part sur des drôles de bases. Hein. Moi, je pense que tout le long du film, je me suis un peu dit, est-ce que Martin Dubreuil séduirait Céline Bonnier ou dans le sens où est-ce que Yves Boisvert séduirait Diane? J'avais un petit peu de misère à me convaincre que oui, mais bon, à un moment donné, on finit par l'accepter. Et, fait que là, c'est un peu de l'opportunisme au début, mais le personnage est problématique. Il se fait même dire, il est très narcissique. Il utilise son cynisme comme un bouclier sans des fois peut-être apprécier la générosité d'autrui ou je sais pas trop. Il se campe dans son intellectualisme pour se permettre d'être acerbe et cynique. Puis, fait que ça en fait un personnage qui est un peu problématique, mais pas au sens... il se fait même dire dans le film, là, fait que ça en fait un personnage complexe qui est vraiment pas tout noir, vraiment pas tout blanc, un genre de d'anguille là, qu'on découvre au fur et à mesure, qu'il y a plusieurs couches de lecture. Bon. Mais c'est beaucoup par le personnage du jeune, je trouve, qui fait du sens, Yves Boisvert. Puis même le titre, sur ce très poétique, donc, à tous ceux qui ne me lisent pas, c'est une réplique clé du film. Il se fait demander par le jeune, pourquoi tu sais. Dans un monde aussi où, je sais pas, là, tu peux poster une vidéo niaiseuse puis avoir des centaines de likes puis comme tout de suite avoir un auditoire, il demande à cet homme-là d'une autre époque, d'une autre mentalité, tu sais, pourquoi tu t'écris tout ça si t'as à peine de lecteurs? Puis justement, et le personnage d'Yves Boisvert de répondre, ben je le fais pour ceux qui me lisent pas. Cette métaphore-là a plusieurs déclinaisons d'interprétation dans le film, puis je trouve ça très beau, en fait, puis c'est un résistant, puis c'est ça que je trouve beau, tu sais. Comment rendre la poésie contemporaine? Ben c'est finalement en la collant à l'anarchique, tu sais, au révolté, puis c'est là où ça a du sang dans les veines, ce film-là et ce personnage-là. Puis par le personnage du jeune, tout prend le sens. Donc, est-ce que c'est un triomphe sur toute la ligne pour moi? Peut-être pas tout le temps. Je trouve que, bon, il y a certains dialogues qui sont un petit peu plus durs à... Surtout avec le personnage de Jacques Lheureux, là, qui joue un éditeur qui a toujours supporté un peu envers et contre tous le travail de Yves Boisvert. Puis là, en tout cas, je trouve que ces scènes-là, une scène dans un bureau, là, un genre de pseudo-drame qui t'écrit... En tout cas, c'est vraiment une scène qui n'est pas à la hauteur du reste. Mais bon, mais globalement, puis ça en a même fini par être quasi émouvant. Peut-être pas autant qu'Avengers Endgame, là, mais quasiment.
J'ai pleuré, Pascal. Respecte-moi.
Mais non, ben, je te respecte, mon Rémi, écoute. Mais ce que je voulais dire aussi, pour le comparer à Surveillant, ou tu sais, même, c'est que Yann Giroux a pas peur de faire un cinéma qui est quand même grandiloquent dans son style. Puis c'est parce que, on dirait que quand on regardait juste le synopsis, le titre, on sait qu'on parle de poésie, tu sais, ça crie film austère, beaucoup. Alors que ce l'est pas tant, je trouve que c'est un film qui est assez généreux là, dans ce qu'il dans son souffle cinématographique, puis moi ça l'a quand même bien élevé pour moi. Alors encore une fois, est-ce que c'est tout ça, j'ai pas adhéré à tout dans le film, mais il mérite définitivement à mon œil de se retrouver parmi les finalistes, parmi oui, les meilleurs films québécois de 2018. Donc je sais pas, toi Paul, est-ce que tu l'avais vu?
Non, j'ai toujours pas vu depuis. Ouais.
Ben mets-toi-le à regarder parce oui, qu'il en vaut franchement le détour. Puis c'est ça, plus, comment dire, il est plus sexy qu'il n'en paraît. Je sais que c'est plate de ramener tout à ça, là, à l'appel qu'on en fait ou aux idées préconçues qu'on en fait.
Il a peut-être pas bénéficié d'une campagne marketing assez comme agressive ou assez...
Peut-être, mais vraiment, ouais, il mérite de s'y retrouver. Puis... ouais, je sais pas, je pense pas qu'il y a de fautif non plus, mais je pense que c'est un film que ceux qui le voient en parlant bien, puis de bouche à oreille, il va définitivement trouver ou garder son public. Puis Yann Giroux, je suis vraiment, vraiment excité de voir ce qu'il va faire dans le futur. Travail de direction photo fait par Yann Lagarde aussi, hein, lui qui est réalisateur aussi, mais super directeur photo. Donc ça, c'est un partenariat que les gars entretiennent depuis longtemps. Puis cette collaboration-là porte ses fruits, là, visiblement. Donc, ouais, à tous ceux qui ne me lisent pas, mettez-le sur votre radar.
Est-ce que tu crois qu'il va repartir avec la statuette du meilleur film dans quelques
heures? Je ne crois pas. Ma prédiction, que dès que le podcast va être en ligne, ce ne sera plus une prédiction. Hein, ça va être soit vrai, soit faux. Non, moi, je pense que c'est l'année d'une colonie. Mm-hmm. Donc, ouais, ce serait mon... si j'avais un petit 5$ à mettre, ce serait sur une
colonie. Moi, je vais mettre 1991.
Ah ouais? C'est très possible.
Je l'ai même pas vu en plus, mais tu sais, les deux premiers volets étaient assez forts, puis le troisième, les critiques étaient assez bonnes. Puis vu que c'est comme la clôture de cette trilogie-là, j'ai comme un peu le... En tout cas, j'ai un peu le feeling, tu sais, comme un peu les prix honorifiques pour l'ensemble d'un truc, là. Donc j'ai l'impression que ça couvre un peu tout son trajet, là, avec cette série-là.
Ouais, ça pourrait être l'année des films plus populaires aussi, parce qu'il y a quand même aussi La Bolduc, hein, qui est en liste pour des prix principaux. La Bolduc que j'ai vue, hein, entre-temps aussi, là, je l'ai vue cette semaine, là, c'était justement, il me manquait ces deux-là à visionner. Là, ça aussi, là, je l'ai loué en bon contribuable. Mais c'est ça, puis c'est pas mauvais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas un film sur lequel je pense qu'on peut épiloguer très, très, très longtemps. François Bouvier, là, je pense qu'il y a un créneau. C'est pas nécessairement de la mise en scène flamboyante ni rien, mais je pense que ça, pour plusieurs raisons, ça remplit son mandat. Debbie, elle est très bonne, Debbie Lynch White, qui incarne la Bolduc, c'est vraiment le grand attrait du film. Émile Proulx-Cloutier, ben, est-ce que c'est réaliste qu'il joue son chum? Peut-être pas tant, mais c'est un peu un commentaire aussi, parce que c'est extrêmement expéditif, là, comme leur couple commence, ça part. De quelle façon, là, dans le film, je veux dire, ils se voient, ils se reconnaissent et la scène d'après sont mariés, ils ont des enfants, là. Mais je pense que c'est quasiment plus un commentaire sur à quel point qu'à une autre époque, c'est quasiment tout ce que ça prenait pour fonder une famille, tu sais. Puis après ça, c'est des décisions qui affectent le reste de ta vie, mais qu'on réfléchissait peut-être pas comme tel à une certaine époque. Fait que ça peut un peu s'excuser par cette gymnastique intellectuelle-là, mais Émile Proulx-Cloutier, il est quand même vraiment bon, là. À défaut d'être un peu miscaste, là, je trouve qu'avec le matériel qu'il a, il l'élève aussi. Fait que, ouais, c'est un film qui est quand même élevé par les personnages centrales, puis c'est du bon divertissement. Ça se compare à un Louis Cyr, là, tu sais, au niveau qualité, il n'y a pas plus de faux pas ou de grand attrait que l'un que l'autre, là. Donc, ça pourrait aussi, hein, se repartir avec les honneurs. Donc, à suivre.
À suivre dans quelques heures. Donc, c'était notre point de vue cette semaine. Merci beaucoup, les gars.
Yeah.
On va se quitter sur la bande-annonce du film La femme de mon frère, de Monia Chokri.
Ben oui.
Ça lui donnait un petit boost là, pour avoir un bon film plein de couleurs là, qui remporte plein de box-office.
Ben oui, pas trop gris, là.
Non, tout à fait. Donc, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
Bonne journée! Ho!
Alors, je vous le demande parce que c'est le protocole, mais est-ce que vous êtes bien certaine de vouloir interrompre?
Oui.
Et c'est votre Deuxième avortement, c'est bien ça?
Mais le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment.
Est-ce que vous faites du sport?
Pas mal, quand même.
Donc, c'est votre petite amie qui va vous raccompagner après l'intervention?
Non.
Ben non.
Oui.
Enfin, je suis son frère.
Que c'est ma soeur.
Non, je suis sa sœur. Tu devrais sortir avec une femme comme elle au lieu de dater des folles. Elle est parfaite. Mais là...
Eh oui.
Pis, c'était comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est très rigide au lit. Genre belle, mais potentiellement morte à l'intérieur.
Non.
Allô?
Ça n'a pas du tout rapport avec tout ce que je viens de dire.
C'est correct.
J'héberge ma sœur en attendant qu'elle trouve un sens à sa vie.
Pourquoi tout le monde demande à tout le monde s'il veut des enfants? Comme si on était en pénurie d'êtres humains.
Non.
Bonne soirée.
Tu es, disons, surqualifiée pour tous les emplois auxquels je t'ai soumise. Et en même temps, t'as de l'expérience dans aucun domaine.
Aimerais-tu fumer de la drogue?
Pourquoi j'étais pas au courant qu'on serait quatre? Est-ce que c'est une double date?
Ouh! Ah, tout un look!
Ah, ben oui, toi aussi, t'as des lunettes de couleur.
C'est peut-être la femme de ta vie.
Héloïse, t'aime beaucoup. Peux-tu être smart?
Je suis très smart. Ça me touche énormément de voir une famille soudée comme la vôtre.
C'est un bel exemple pour nous de voir qu'il a fallu que vous divorciez pour vivre en harmonie.
À quel moment t'as réalisé que tu vivrais peut-être jamais dans le monde auquel t'aspires?
Je t'aime!
C'est pas normal d'être toujours aussi gentil tout le temps. C'est très psychopathe comme comportement.
Va chier!
Tu peux me dire ce qu'on a fait pour mettre au monde des enfants aussi colériques?
Non.